France Info.
Bonsoir à tous, bienvenue dans les informés de France Info. Vous êtes avec nous sur France Info, à la radio et à la télé, sur le canal 27 de la TNT, les informés entièrement consacrés à l'attentat de Londres. Hier soir, le Royaume-Uni à nouveau frappé par le terrorisme, on se demandera pourquoi. Quelle réponse de la part des autorités britanniques, pas seulement militaires, promet aujourd'hui la Première Ministre Theresa May. Quel impact sur les élections jeudi au Royaume-Uni, également sur le débat en France. Et puis on s'interrogera sur l'influence de Daesh aujourd'hui, alors que l'organisation État islamique recule en Syrie mais aussi en Irak. Les informés de France Info ce soir, Anne-Elisabeth Moutet, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Éditorialiste au Daily Télégraphe, Guillaume Goubert, bonsoir.
Bonsoir Jérôme.
Directeur de La Croix, Gilles Miaëlli, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur de la publication de Causeur, Brigitte Hadès, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Chef du bureau britannique et du site de la revue Politique Internationale et Philippe Turle, bonsoir.
Bonsoir Jérôme.
Citoyen britannique et journaliste à RFI, Radio France Internationale. Pour la troisième fois, donc en trois mois, le Royaume-Uni a vécu hier soir une attaque terroriste et comme le 22 mars dernier, elle s'est déroulée en plein cœur de Londres. Après la France, le Royaume-Uni semble être devenu la cible privilégiée du terrorisme islamiste. Alors, est-ce le fruit d'une stratégie délibérée ? La Première ministre britannique, Theresa May, s'est exprimée aujourd'hui. Elle n'en est pas convaincue.
Nous sommes persuadés d'avoir affaire à un nouveau type de menace, car le terrorisme nourrit le terrorisme et les auteurs sont incités à commettre leurs attaques non seulement sur la base de complots minutieusement élaborés après des années de planification et d'entraînement, non seulement par des assaillants isolés radicalisés sur Internet, mais aussi en se copiant les uns les autres et en utilisant les moyens les plus sommaires.
Voilà, des réseaux, mais aussi des actes isolés, des individus qui se copient, dit Theresa May. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette succession d'attentats ? Est-ce qu'elle peut d'ailleurs s'expliquer tout simplement, Guillaume Goubert ?
Je pense qu'il y a certainement un facteur de, entre guillemets, de vaste communicant. C'est sûr que en France, par exemple, le niveau de sécurité, de prévention est à un niveau extrêmement élevé depuis deux ans, alors qu'il l'est sans doute moins, il l'a sans doute moins été ces dernières années en Grande-Bretagne et que ça a peut-être laissé un petit peu plus de champ, dans la période récente pour des actes terroristes.
Philippe Thor.
Je suis pas complètement d'accord avec ce que vous dites. Je pense que le niveau de sécurité est quand même très élevé en Grande-Bretagne, aussi élevé en France, parce qu'on a connu quand même des attentats terroristes en 2005. Le menace existe quand même depuis ce moment-là et bien avant.
C'est vrai qu'il y a eu peu d'attentats entre 2005 et 2015, et là on a une succession dont on s'interroge.
Alors, pour moi, la raison est simple, c'est qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, parce que la Grande-Bretagne fait partie de la coalition qui frappe Daesh en Irak et en Syrie. Deuxièmement, je pense que nous avons vu l'année dernière le vote pour le Brexit. Et donc, les terroristes savent qu'il y a une division dans la société britannique. Et donc, ils veulent profiter de cette division dans la société britannique en période électorale et préélectorale pour essayer de diviser encore plus, parce que ce qu'ils cherchent, c'est justement de monter les gens les uns contre les autres, de diviser le pays. Et donc, c'est le moment propice pour faire cela. Et évidemment, troisième raison, c'est parce que la Grande-Bretagne représente tout ce qu'ils détestent, c'est le monde libre, c'est la démocratie, les gens s'amusent, il y a de la boisson et on sort, etc. Donc, c'est ça qui les motive pour faire...
Voilà, c'était le cas hier avec des gens poignardés devant des bars un samedi soir à Londres. Brigitte Hadès, vous vivez à Londres. Comment les Britanniques vivent ça? Ils se sentent victimes d'une stratégie globale qui vise à les toucher, eux, particulièrement ces dernières semaines?
Je pense que les Anglais sont très, très courageux en général, l'ont montré pendant des siècles. Et donc, ils sont tolérants et courageux. Et ils sont pas du tout... Ils sont stiff upper lip, c'est vraiment ça. Ils sont pas du tout plus horrifiés que nous l'étions, même presque moi, ou en tout cas pareil. Je pense qu'ils se serrent les coudes. Mais ils sont quand même conscients des problèmes des communautarismes qui a créé quand même une des poches dans la société britannique.
On va y venir.
Voilà, donc ça, on en verra après, d'accord.
Anne-Elisabeth Moutet, sur cette vision d'ensemble qui nous laisse penser qu'il y a une stratégie qui vise à ciblé, a frappé le Royaume-Uni ces dernières semaines.
Mais même avant Daesh, il y avait Al-Qaïda. Et Al-Qaïda, ça veut dire la base. Ça voulait dire que chacun des gens qui faisaient des attentats au nom d'Al-Qaïda avait le droit, suivant le principe d'Al-Qaïda, de prendre des initiatives et de se déployer. Et c'est encore plus atomisé par le système de plus en plus d'utilisation des réseaux sociaux, etc. Mmh.
Nouveau type de menace, a dit Theresa May ce midi.
C'est cette atomisation qui est dangereuse. Elle a été certainement théorisée, mais elle n'est pas nécessairement dirigée de partout. C'est l'équivalent du terrorisme crowdfunding. C'est ce qu'on fait maintenant dans les startups. Ben, les terroristes font ça aussi. Et ça n'empêche pas que c'est très efficace également pour faire un effet avec un minimum de moyens sur les sociétés occidentales.
Gilles Mihaly, moi je vous interroge sur un pays. Est-ce que la logique nationale, elle est toujours pertinente finalement, ou bien est-ce qu'il faut juste raisonner dans un cadre européen, par exemple?
Ben, l'un n'empêche pas l'autre. Il faut aussi ne pas oublier que nous comptons pas tous les attentats. Il y a beaucoup des attentats interceptés. Pour savoir quelle est la stratégie et où est-ce qu'ils essaient de frapper, il faut pas juste compter les attentats.
Éviter ces derniers mois.
Entre guillemets, réussis. Il y a des attentats ratés, soit avec un problème, soit quelqu'un qui est intercepté avant de pouvoir passer à l'acte, soit qu'il n'y a pas de mort. Il suffit, par exemple, pour hier, cette nuit, il aurait suffi d'un petit accident pour que ça passe quatrième page en bas, on a arrêté trois gars dans un van, etc. Et donc, pour la France également, on se souvient que juste avant le premier tour, il y avait une cellule qui était arrêtée au dernier moment avec les armes. Donc, si on compte tout cela, pour l'Angleterre, après 2005, l'effet qu'on ne peut pas monter sur un avion avec des liquides, pourquoi ? Parce que quelqu'un a été arrêté à Heathrow avant de monter sur l'avion, et c'était après 2005. Donc il y a sans cesse des attentats, des tentatives d'attentats. Ils essaient de passer comme l'eau, là où c'est facile de passer. Et de toute façon, nous, les journalistes et les autres, on va donner du sens après. S'ils frappent en pub, c'est notre manière de vivre.
On essaie de donner du sens là où parfois il n'y en a pas forcément donné.
Mais c'est ce que disait le Premier ministre. Tout ce qu'ils font a du sens, frappe, c'est le terrorisme, il frappe l'entendement à travers les médias.
On continue de débattre de ce qui s'est passé hier soir, de la réaction également des Britanniques aujourd'hui, juste après l'info, 20h10, Yasmina Adila.
Un Français tué dans l'attentat de Londres, information ce soir du ministre des Affaires étrangères en visite à Tunis. Jean-Yves Le Drian précise également que 7 Français sont blessés, dont 4 grièvement. Une autre personne est portée disparue. Le ministre des Affaires étrangères se rendra demain à Londres. Du côté de l'enquête, 12 personnes ont été interpellées dans l'est de Londres aujourd'hui. Selon la police britannique, des perquisitions sont en cours dans plusieurs endroits. Les forces de l'ordre qui précisent avancer dans l'identification des terroristes. 3 hommes qui ont foncé dans la foule au volant d'une camionnette sur le London Bridge. Ils ont ensuite poignardé des passants et des clients d'un restaurant à Borough Market. Les 3 hommes ont été abattus par la police. L'attentat fait au moins 7 morts et 48 blessés. 21 sont dans un état critique. Emmanuel Macron, lui, s'est entretenu avec Theresa May. Le président de la République a rappelé à la première ministre britannique l'importance de la coopération européenne dans la lutte contre le terrorisme. Theresa May s'est engagée à donner toutes les informations sur les victimes françaises et à assurer et garantir la sécurité des Français résidant à Londres. Le PSG échoue en finale de la Ligue des champions de handball. Les Parisiens ont perdu face aux Macédoniens de Skopje. Score final extrêmement serré, 23 à 24.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jérôme Cadet.
Les informés de France Info avec Philippe Teurl, avec Gilles Mihaly, Brigitte Hadès, Guillaume Goubert, Anne-Elisabeth Moutet. Londres à nouveau frappé par le terrorisme comme Manchester il y a 2 semaines à l'issue du concert d'Ariana Grande. Manchester où un concert de charité a lieu en ce moment, concert qui vient de débuter en hommage aux victimes de cet attentat du 22 mai. Sur scène, la chanteuse américaine Ariana Grande qui était donc déjà présente il y a 2 semaines lors de cet attentat, mais également Katy Perry ou encore les Black Eyed Peas, Pharrell Williams également. Un concert maintenu ce soir malgré ce qui s'est passé hier à Londres. Anne-Elisabeth Moutet, comment réagissent les Britanniques à ces attaques? On voit qu'ils tiennent à ce que ce type de concert soit maintenu. Il y a juste à côté un match de football qui se déroule ce soir à Old Trafford, un jubilé d'un joueur de Manchester United.
Vous savez, c'était déjà comme ça pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant le Blitz. Les bombes tombaient et on ne faisait pas attention. Et on faisait vraiment, on allait loin. loin pour dire que ça ne faisait pas attention. Si je peux me permettre un souvenir familial, mon père était à Londres pendant le Blitz à l'époque. Un jour, une bombe a traversé le mur pour rentrer dans la salle à manger où ils étaient en train de dîner avec des amis. Ils ont regardé la bombe et l'un des serveurs est venu et il a emmené la bombe pour qu'elle aille exploser dans le square du milieu et le dîner a recommencé. Et ben ça, c'est l'attitude des Anglais. Ils n'en parlent pas. Alors, ça a un peu changé aujourd'hui, mais néanmoins, il y a une espèce de volonté que la vie continue le concert qui est en plus un concert pour aider la solidarité les familles de Manchester et une collecte de fonds a toutes les raisons de continuer. C'est pareil pour le match de foot. Alors pour Manchester, il y a une longue histoire de Manchester comme victime du terrorisme parce qu'avant les actes islamistes, il y a eu 2-3 attentats meurtriers de l'IRA en 66, en 91, en 93. Et donc c'est une ville qui est une ville du nord de l'Angleterre, c'est une ville qui a subi un certain nombre c'est comme s'il y avait un attentat à Roubaix en France ou dans des endroits de la France périphérique, si on peut dire. Alors pour Manchester, c'est aussi important de dire on est toujours là, on est toujours vivant, vous pouvez pas faire ça.
Je vais juste ajouter quelque chose à ce que disait Anne-Elisabeth. Si vous allez dans n'importe quel vendeur de souvenirs en Grande-Bretagne, surtout à Londres, vous allez pouvoir acheter des tasses, des pochettes pour votre téléphone, des cartes postales avec une chose écrite dessus, c'est Keep calm and carry on. C'est rester calme et continuer. C'est un peu ça le leitmotiv des Britanniques. C'est un livre d'instruction qui date de la Deuxième Guerre mondiale. En temps de crise, vous restez calme et vous continuez dans la vie comme d'habitude. Et c'est un peu ça la mentalité.
Et ça se transmet de génération en génération. Si je comprends bien, Brigitte Hadès, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, vous parliez de ce communautarisme britannique dont on a beaucoup parlé après les attentats de 2005 notamment. On a dit que ça pouvait être le terreau, que ça pourrait favoriser le développement du terrorisme et de l'islamisme radical. Depuis, il y a eu d'autres pays, dont la France, qui ont été touchés, qui ne sont pas particulièrement attachés à ce modèle communautariste. Est-ce qu'aujourd'hui, on ferait la même analyse d'explication de ces actes terroristes de ces dernières semaines ?
Oui, certes, je pense que les Anglais, qui sont pragmatiques, même s'ils sont très courageux, sont en train de revenir sur ce communautarisme, comme les Hollandais d'ailleurs, parce qu'en fait, à force de laisser les gens dans des poches fermées, comme ça, où ils ne parlent même pas l'anglais, certains, et qu'ils sont dans des écoles coraniques, parce que les écoles confessionnelles sont autorisées, ça empêche la cohésion sociale. Et petit à petit, les musulmans qui souhaiteraient s'insurger contre ce qu'ils voient n'osent pas, parce qu'ils sont pris entre deux feux. Ils ont peur des Anglais, parce qu'ils n'osent pas parler vis-à-vis d'eux, parce qu'ils ne les connaissent pas assez bien. Et ils ont peur, dans leur communauté, de s'exprimer. N'oublions pas que le type de Manchester qui s'est fait sauter était un homme que tout le monde connaissait dans la communauté. Il était c'était pas un loup solitaire, c'était
oui,
un homme.
Sa famille,
oui. Oui, c'était un homme qui allait dans la mosquée générale et que tout le monde côtoyait. Donc pourquoi est-ce qu'il se serre les coudes comme ça? C'est parce que ils ne sont pas assez intégrés dans la société. Donc je pense que les Anglais s'en aperçoivent.
Ça vous paraît être une grille de lecture, une analyse possible, Gilles Miaëlli?
Je pense que c'est intéressant parce qu'en France, on fait le contraire. Et à ce moment-là, on se rapprochait. Peut-être il y a du terrorisme ici, parce que ici,
c'est-à-dire on fait le contraire en France.
C'est-à-dire qu'il y a un modèle d'intégration, que le mot communauté n'a pas le même sens qu'en Angleterre ou qu'aux États-Unis, qu'il y a une loi sur le voile, qu'on n'est pas très tolérant pour les burkinis, etc., etc. Donc, à un moment donné, il y avait une question qui était légitime, à la limite. Est-ce que la manière française de faire des Français fabrique aussi des anti-Français? Et donc, on voit que c'est pas le modèle de société qui compte. Il y a un problème. C'est ni la misère. C'est pas une question économique. C'est pas une question de modèle de société. Il y a un véritable problème avec l'islam.
Guillaume Goubert.
Moi, je voudrais revenir une seconde sur la question de la réaction des Britanniques et pour dire que c'est quand même frappant de voir à quel point, certes, les Britanniques ont des antécédents historiques extraordinaires en la matière, mais à quel point toutes les sociétés européennes ont réagi d'une manière extraordinairement calme face aux événements terroristes, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Suède. Tous ces lieux où sont produits des attaques, il y a une réaction non violente qui est absolument, je trouve, admirable et qu'il faudrait quand même le souligner.
Absolument.
Parce que espérant que ça continue.
Il faut dire que les terroristes, ils veulent diviser la société britannique et monter les uns contre les autres, ils se trompent de cible. Et même les élections, c'était le cible évidemment. C'est juste 4 jours avant les élections, 5 jours avant les élections générales qui auront lieu jeudi prochain. On me disait déjà ce matin, mais alors est-ce qu'ils vont annuler les élections? Est-ce que ça va être reporté? Est-ce qu'ils vont interrompre la campagne pendant quelques semaines? J'ai dit non. Les élections auront lieu, j'en suis certain, et la campagne sera peut-être interrompue une journée par aspect
pour
les
morts.
Mais à partir de lundi, c'est business as usual.
Anne-Elisabeth Moutet, sur ce débat, le communautarisme au Royaume-Uni favorise-t-il le développement de l'islamisme radical ?
Il est absolument évident qu'on a dit en France que c'était la laïcité, mais on a eu la même chose en Belgique. Or, ils ont une religion établie, ils ont une famille royale et ils ont des voiles partout. On a dit que c'était le communautarisme en Grande-Bretagne et puis que c'était en France que c'était l'absence de communautarisme. Alors
absolument.
Non, la réalité, c'est que je suis tout à fait d'accord avec Gilles Micaëli, c'est que le problème, c'est pas chez nous. Et c'est une idée de blâmer la victime en disant c'est de votre faute, si vous comprenez, vous les avez mal, vous êtes mal des maltraité. Alors, c'est vrai qu'en France, il y a un problème de classe plutôt qu'un problème de racisme, et qui est que les communautés musulmanes, pas toutes d'ailleurs, mais une partie, sont économiquement, ils sont en bas de la pile. Et les jeunes ont beaucoup plus de mal à trouver de travail, etc. Mais ça n'est pas du tout le cas en Grande-Bretagne, où les musulmans viennent du sous-continent indien, ce sont des gens qui appuient beaucoup sur l'éducation, ils vont à l'université, ils sont médecins, ils sont avocats, etc. Et le niveau socio-économique de la communauté musulmane, on a le droit de faire des statistiques ethniques en Grande-Bretagne, est infiniment plus élevé que celui des pauvres blancs en Grande-Bretagne. Et par conséquent...
Donc il n'y a pas de débat sur la réussite des politiques d'intégration ou pas comme il peut y avoir en France.
Et donc, cette idée-là, il faut abandonner l'idée que c'est de notre faute.
C'est bien vu, je suis d'accord complètement.
Brigitte Hadès.
Il faut surtout donner aux musulmans envie de prendre leur voix, d'adresser les vrais problèmes. J'ai interviewé cet après-midi un des anciens directeurs du MI6 qui me disait...
Service de renseignement britannique.
Que je connais bien et qui me disait, mais il faut absolument veiller à ce que ces gens s'aperçoivent que c'est l'islam le problème. C'est-à-dire que l'islam, la lecture de l'islam, du wahhabisme qui est...
D'une minorité, finalement.
Et que finalement, l'islam, il faut qu'ils aient d'autres lectures, des lectures plus ouvertes, un islam éclairé, qui fait partie de la vérité religieuse, mais qui sont complètement maintenant... finalement ligoté par des imams financés par l'Arabie Saoudite, faut le dire quand même.
On va continuer cet échange, Philippe Turn, notamment après les déclarations de Theresa May aujourd'hui sur la réaction des autorités britanniques, qui ne sera pas uniquement militaire, promet la Première ministre. Avant cela, l'info 20h20, Yasmina Adila.
L'attentat de Londres a fait un mort français, annonce ce soir de Jean-Yves Le Drian. Le ministre des Affaires étrangères précise que 7 Français ont été blessés, 4 sont dans un état grave. L'attaque de la nuit dernière a fait au moins 7 morts et 48 blessés. 3 hommes ont foncé dans la foule sur le London Bridge avant d'attaquer au couteau des passants et des clients dans un restaurant à Borough Market. Et au lendemain de cette attaque, Theresa May a annoncé la suspension de la campagne électorale des législatives britanniques. Le scrutin doit se tenir jeudi prochain. La première ministre britannique a aujourd'hui annoncé et a également dénoncé l'idéologie malfaisante de l'extrémisme islamiste. Elle ajoute que battre cette idéologie était l'un des grands défis de notre temps. Le maire de Londres, lui, appelle à une veillée demain soir en mémoire aux victimes. Il donne rendez-vous en fin de journée au parc de Potterfield, près de l'hôtel de ville. Sadiq Khan dit vouloir montrer l'union des Londoniens. Mardi, tout le Royaume-Uni s'arrêtera à 11h pendant une minute. Et toujours en hommage aux victimes, les drapeaux seront en berne jusqu'à mardi soir. La finale du top 14 de rugby, c'est ce soir. Clermont et Toulon se disputent le bouclier de Brennus. La rencontre se jouera au Stade de France. Coup d'envoi du match à 20h45.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jérôme Cadet.
Les informés, Guillaume Goubert, Anne-Elisabeth Moutet, Gilles Mihaëli, Brigitte Hadès et Philippe Turl. Alors une fois qu'on a posé les causes du problème, comment lutter contre ce que la première ministre britannique Theresa May appelle un nouveau type de menace? Eh bien, pas uniquement avec des moyens militaires, dit-elle, Theresa May, qui veut revoir la stratégie britannique de lutte contre le terrorisme.
On ne peut pas permettre à cette idéologie d'avoir suffisamment d'espace pour se propager. C'est précisément ce que permettent Internet et les fournisseurs d'accès. On a besoin de travailler avec nos alliés, les gouvernements démocratiques, pour conclure un accord international pour réguler le cyberespace, pour empêcher le développement de projets extrémistes et terroristes.
Voilà, nouvelle réglementation pour limiter la liberté d'expression sur Internet. On va venir sur ce point dans une minute. D'abord, elle l'a dit, une réponse pas uniquement militaire. Nous, Français, on a plutôt été habitués à des discours après attentat qui étaient plutôt de dire il faut l'état d'urgence, il faut plus de policiers. C'est classique ce type de réflexion, Philippe Turn.
Excusez-moi, mais il y a déjà eu une augmentation du nombre de policiers qui était annoncée lors de l'attentat de Manchester. Et à Londres aussi, on voit beaucoup plus de policiers dans la rue qu'auparavant. Et il faut dire quand même...
Donc on peut pas faire plus.
Non, mais hier soir, après l'attentat, il a fallu 8 minutes pour l'intervention pour abattre les trois assaillants. Donc la police est sur les dents, mais je pense que c'est elle a raison, c'est pas seulement la police qui est la réponse à cette situation. Et pour revenir juste à ce que je voulais dire avant, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention à ce qu'on appelle l'islam dans cette histoire, parce que nous les journalistes, les politiques, les gens qui parlent de l'islam, je pense qu'il faudrait changer peut-être ce qu'on dit, on appelle ça ce que c'est un salafisme. Donc c'est pas l'islam en général, parce qu'on a tendance à confondre l'islam en disant tous les musulmans sont des terroristes potentiels. C'est faux, mais il faut quand même parler de quoi il s'agit. C'est une forme de l'islam, donc le salafisme, qui est détourné à des fins extrêmement violentes et moyenâgeuses. Et c'est ça qu'il faut combattre. Et donc, pourquoi pas interrompre certains services d'Internet? Pourquoi pas faire plus envers Facebook, Twitter, tous les réseaux sociaux qui, à mon avis, ne font pas assez peut-être pour combattre ces personnes qui parlent entre eux. Mais la tâche est quand même énorme.
Voilà. C'est ça le problème. Empêcher l'islamisme radical de se développer sur la toile, ça fait quand même des années qu'on en parle, Elisabeth Moutet.
Je ne suis pas entièrement d'accord avec ce que dit Philippe. C'est-à-dire, oui, bien sûr que l'essentiel de l'islam n'est pas terroriste. Mais en revanche, il y a un climat qui est vraiment ennuyeux dans... trop de milieux musulmans et qui trouvent que ces attentats sont parfaitement justifiés pour toutes les raisons de l'Occident nous a attaqués, etc. On nous traite mal et tout ça. Il fallait voir sur Al Jazeera et sur le site web de Al Jazeera toutes les petits smileys, les petites têtes souriantes jaunes qui montaient comme une espèce de nuage épais de gens ravis de voir le reportage. C'était les commentaires, vous savez, qu'on peut faire en direct sur les images.
Ça n'a pas valeur de sondage ou de
représentation. On se rappelle au moment du 11 septembre les Palestiniens qui distribuait des bonbons dans les rues de Ramallah. Il y a tout de même une attitude coupable dans certains milieux, naturellement pas tous, qui consiste à dire c'est formidable, hein, on leur a donné un grand coup de poing sur le nez, il faut continuer. Et vraiment, moi j'étais choquée de voir ça sur Facebook, cette animation qui montrait tous les gens qui cliquaient sur « j'aime ». C'est dérangeant.
C'est pas les réactions qu'on a eues en Grande-Bretagne
on ne peut pas généraliser. Il y a toutes sortes de réactions. Il y a eu au contraire des réactions extraordinairement responsables de la communauté. Tout ça, c'est très bien. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi est-ce que c'est populaire? C'est parce qu'en réalité, ce djihadisme est un phénomène de mode. C'est un phénomène de mode. Dieu sait que les modes sont souvent idiotes. Alors, j'ai jamais dit que c'était la majorité née tout ça, mais ce phénomène de mode est quelque chose qu'il faut aussi attaquer bien avant. Il y a des gens qui vont pas se mettre à faire des attaques eux-mêmes, mais qui vivent dans un climat général intellectuel, et intellectuel, c'est peut-être un grand mot, qui favorise l'acceptation de ce genre de comportement.
Jimmy Haley.
Oui, je peux donner deux exemples. Au milieu des années 90, il y avait une série d'attentats en France. Je pense que le terroriste s'appelait Kankal.
Kankal.
Exactement. Ouais. Et ce que Gilles Kepel explique, c'est que ça s'est arrêté au moment où, dans les quartiers, les gens ont compris que c'est pas leur intérêt d'avoir ce genre de phénomène. Donc, quand le poisson, qui sont les terroristes, n'ont plus d'eau, quand on sèche la mer, il n'y a plus de terrorisme. Qu'est-ce qui se passe 17 ans ou 18 ans plus tard? Après les attentats de novembre 2015, des journalistes du Monde se rendent sur un quartier de la Seine-Saint-Denis, d'où est originaire cette jeune femme qui était tuée avec son cousin. Je sais pas où, à Saint-Denis, je pense. Et ils ont interviewé les voisins, des gens tout à fait normatifs. C'est exactement cet islam-là qui est, n'a rien à voir. C'est l'islam, rien à voir. Et ils ont demandé, ils ont dit, oui, mais bien sûr qu'on sait qu'elle s'est radicalisée, elle parlait même de partir en Syrie, mais bon, c'est mieux que de traîner avec des garçons et de boire. C'est de ça qu'on parle. Au moment où les gens qui voient, qui savent, ne pensent pas que, oui, finalement,
donc, si
c'est
je vous
pas
comprends
si
bien, agir sur Internet, responsabiliser Google, Facebook, etc., ça sert à rien.
Non, il y a plein de choses à faire.
Mais c'est pas l'élément.
Mais il faut sécher la mer. La
loi existe, les pratiques existent. L'appel au meurtre est interdit, l'appel au terrorisme est interdit.
Guillaume Goubert, rapidement.
Non, simplement sur l'islam, il est clair qu'il y a le thème, ça n'a rien à voir avec l'islam. Aujourd'hui, est totalement inacceptable et inaudible. Et il y a un enjeu de dissociation au sein de l'islam entre les musulmans modérés qui doivent très clairement se dissocier des musulmans extrémistes.
Et certains le font.
Et il faut vraiment adresser cette demande et il faut qu'ils le fassent. Ils le font déjà, il faut qu'ils le fassent plus encore.
La suite des informés de France Info dans quelques minutes. On va parler de l'impact de ces attentats sur la campagne pour les législatives britanniques qui se déroule jeudi et puis le débat qui a rebondi également aujourd'hui en France. À tout de suite.
Nuit d'été à Radio France. Le temps d'un week-end, du 9 au 12 juin, plus de 50 artistes célèbrent en musique la beauté et la douceur des soirs d'été. Du ténor Werner Gura au maître de la musique indienne Kusal Das, de la nuit transfigurée de Schoenberg aux harmonies du soir de Liszt par Evgeny Soudbine, l'été déploie ses accords nocturnes. Récital, musique baroque, raga, live électro, joute d'improvisation à l'orgue. Du 9 au 12 juin, week-end nuit d'été à Radio France. Réservation maisondelaradio.fr.
Téléchargez la nouvelle application France Info, écoutez la radio en direct, regardez les vidéos et recevez des alertes pour rester connecté à l'actualité.
France Info.
France Info Météo, avec les meubles Gauthier, experts français des petits espaces. Retrouvez toutes nos solutions gain de place en magasin et sur gauthier.fr.
Le temps demain, Jean-Michel Golinski.
Demain, les températures vont rester estivales près de la Méditerranée avec 26 à 29 degrés au cœur de l'après-midi. Sur le reste du pays, les valeurs en légère hausse par rapport à aujourd'hui atteindront 20 à Rennes, 22 à Tours et Limoges, 23 à Lille, Paris, Nancy et Toulouse, 24 à Lyon et à Bordeaux. Sous un ciel devenant souvent plus variable l'après-midi, partagé entre nuages et éclaircies sur la plupart des régions, sauf sur le quart nord-ouest où l'arrivée d'une perturbation océane à la mi-journée va apporter de la pluie et un vent de sud de plus en plus fort en soirée, vers 90 km à l'heure en rafale. À l'avant, la journée va se terminer sous un ciel plombé des Pays de la Loire à la Normandie. Sur ces régions, la pluie arrivera dans la nuit de lundi à mardi. Reste à parler du risque d'orage ce lundi après-midi pour le relief de l'Est et de la Corse.
Jean-Michel Golinski, Météo France. Merci d'être avec nous sur France Info. Il est 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
L'info Camille Revel.
Une veillée d'hommage demain en mémoire des victimes de l'attentat commis à Londres hier soir. Le maire de la capitale britannique, Sadiq Khan, appelle à se rassembler à 18h heure locale au parc de Potterfields, près de l'hôtel de ville, pour, dit-il, montrer que nous sommes unis contre ceux qui cherchent à nous nuire. Nous ne laisserons jamais ces lâches gagner, crie-t-il sur Twitter. Et hier soir, vers 22h heure de Londres, une camionnette a délibérément fauché des passants sur le London Bridge, puis trois assaillants sont ensuite sortis, attaquant des passants au couteau à Borough Market avant d'être abattus par la police. L'attaque a fait au moins 7 morts et 48 blessés. Un Français a été tué, annonce ce soir le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
Des terroristes d'une incroyable lâcheté se sont pris à la foule innocente d'un samedi soir, faisant des dizaines de victimes, parmi lesquelles plusieurs de mes compatriotes. Ça permet d'ailleurs à cet instant de faire le bilan connu à ce moment de cet attentat. 7 morts et 48 blessés, bilan global, dont 21 en urgence absolue. Et du côté français, un mort et 7 personnes hospitalisées, dont 4 dans un état grave, et un compatriote toujours disparu et non repéré à ce moment.
Jean-Yves Le Drian en déplacement à Tunis ce soir. Pour l'heure, l'attaque n'a pas été revendiquée. La police britannique a interpellé 12 personnes ce matin dans le cadre de l'enquête. Des arrestations dans l'est de Londres à Barking. Une priorité pour les enquêteurs, explique la patronne de la police londonienne. S'assurer que les trois auteurs de l'attentat n'appartiennent pas à un réseau qui pourrait vouloir mener de nouvelles attaques. Une attaque commise 2 semaines après l'attentat lors d'un concert d'Ariana Grande à Manchester qui avait provoqué la mort de 22 personnes. La chanteuse américaine est de retour ce soir à Manchester. Elle donne en ce moment un concert caritatif accompagné d'autres artistes comme Coldplay, Katy Perry ou Robbie Williams devant 50 000 spectateurs. Les bénéfices seront remis aux associations de victimes. Vous pouvez voir ce concert en direct sur notre site franceinfo.fr. Après l'attentat de Londres, la campagne pour les législatives britanniques est suspendue aujourd'hui, mais elle reprendra demain et l'élection est bien maintenue ce jeudi, assure Theresa May. dans un peu plus de 10 minutes. Clermont et Toulon se disputent le bouclier de Brennus. La finale du top 14 de rugby, c'est à 20h45 au Stade de France. Ce sera à vivre avec nous sur France Info. Un mot de Roland Garros. Kristina Mladenovic affrontera Timea Bacinski en quart de finale. La Française a éliminé cet après-midi la tenante du titre du tournoi de tennis, l'Espagnole Garbiñer Muguruza. Vous l'avez vécu là aussi avec nous. Il est 20h33 sur France Info. Les informés continuent avec Jérôme Cadet.
Les informés, Jérôme Cadet.
Les informés de France Info, entièrement consacrés ce soir à ce nouvel attentat terroriste hier soir à Londres. Avec nous Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste au Daily Telegraph, Guillaume Goubert, directeur de La Croix, Gilles Miaeli, directeur de la publication de Causeur, Brigitte Hadès, chef du bureau britannique et du site de la revue Politique Internationale, et Philippe Turl, journaliste britannique à RFI. On va parler dans une minute du contexte dans lequel cette attaque s'est déroulée hier soir, à savoir la campagne pour les élections législatives qui auront bien lieu jeudi. Theresa May l'a confirmé aujourd'hui. Avant cela, direction le Stade de France à Saint-Denis, tout près de Paris, où se dispute ce soir la finale du top 14 de rugby entre Clermont et Toulon. Coup d'envoi dans 12 minutes. Jérôme Val, vous êtes sur place. Bonsoir. La sécurité a-t-elle été renforcée ce soir au Stade de France, Jérôme?
Bonsoir Jérôme, bonsoir à tous. Oui, sécurité, en tout cas c'est le même dispositif depuis maintenant 2 ans à chaque grand événement ici au Stade de France. Beaucoup de contrôles, beaucoup de policiers également en vue, l'arme à la main et qui déambulaient sur le chemin menant par exemple du RER jusqu'aux portes du stade. Mais chez les supporters qui eux sont bien présents ce soir, que ce soit ceux de Clermont ou de Toulon, pas d'inquiétude particulière. Ceux que j'ai pu rencontrer en tout cas me disaient qu'il était hors de question pour eux de rater cet événement, de changer d'avis, de ne pas venir. Ils ont fait plusieurs heures de route ou de train pour venir jusqu'à Paris. Il n'était absolument pas question pour eux de renoncer à cette finale. Ils sont venus en famille avec les enfants, avec la famille élargie parfois. Et pour l'instant, en tout cas, c'est une très très belle ambiance. Il y aura tout à l'heure, Jérôme, une minute de silence, évidemment, en hommage aux victimes de cet attentat à Londres.
Jérôme Val depuis le Stade de France. On va vous retrouver dans quelques minutes sur France Info pour vivre cette finale que vous pourrez également suivre sur France 2 ce soir. Alors les Britanniques, frappés 3 fois en 3 mois par le terrorisme, s'apprêtent donc à voter. Élection législative anticipée prévue pour jeudi. Élection maintenue, a dit Theresa May aujourd'hui, même si la campagne des conservateurs et des travaillistes a été momentanément suspendue pour une journée. Est-ce que l'Union nationale est toujours de mise sur cette question du terrorisme en Grande-Bretagne, ou bien comme en France il y a un an, sous le coup de boutoir des attentats, il est en train de se fissurer, Philippe Turl?
Je ne le pense pas. Honnêtement, qu'est-ce qui pourrait arriver? Éventuellement, ça jouera un petit peu en faveur des conservateurs qui sont actuellement au pouvoir. Parce que ces derniers temps, on a eu quelques échanges assez musclés entre Theresa May, la Première ministre, et Jeremy Corbyn, le chef du Parti travailliste, justement sur la question de sécurité. Et Theresa May a accusé Jeremy Corbyn plusieurs fois de ne pas être à la hauteur de la tâche, en disant si Jeremy Corbyn est élu, et les travaillistes reviennent au pouvoir, il devient Premier ministre, il ne sera pas du tout à la hauteur pour protéger la Grande-Bretagne. Mm-hmm. Moi, j'ai l'habitude, je suis ancienne ministre de l'Intérieur, je suis Premier ministre, je sais de quoi il s'agit, et donc avec moi, vous allez avoir un pays en meilleure sécurité avec les travaillistes. Reste à savoir si ça aura un impact sur le vote de jeudi, mais je pense que ce sera un impact assez minime.
Est-ce que c'est devenu un thème de campagne, notamment depuis Manchester, Brigitte Hadès?
Jeremy Corbyn a essayé les premières minutes après les attentats de dire que c'était à cause du fait que la politique étrangère anglaise était mauvaise et qu'elle était dangereuse, etc. Mais il a été très vite... il a été un peu honteux directement d'avoir dit ça, je pense, parce qu'il s'est tout de suite dédié que c'était ridicule et c'était honteux, parce que là, ça faisait vraiment une volonté de récupération ridicule, et je ne pense pas que ça tienne.
Donc ça n'est plus dans le débat, Anne-Elisabeth Moutet.
Alors, non seulement ça, mais il y a quelques minutes, Jeremy Corbyn a accusé les conservateurs, quand Mme May était ministre de l'Intérieur, d'avoir coupé les vivres à la police et donc de ne pas avoir été, au contraire,
diminuer les effectifs,
trop offensif. Alors, comme c'est absolument le contraire de son discours général depuis des années, c'est pas totalement crédible. Alors, c'est vrai que dans cette élection...
C'est vrai ou c'est pas vrai que les effectifs de la police ont baissé?
Je ne sais pas si les effectifs de la police ont baissé. Certainement, il y a dans les coupes budgétaires, la police a dû être affectée, probablement moins D'accord. d'autres choses. Mais pas d'une manière absolument significative. D'ailleurs, on a bien vu que la police est arrivée en 8 minutes. Non, ce qui est intéressant, c'est dans une campagne électorale où on pensait que c'était impossible pour Mme May de perdre l'élection, Corbyn s'était considérablement rapproché. Et c'est pour ça qu'il dit cette chose qui est tellement l'inverse de son premier réflexe, parce que c'est un tiers-mondiste à l'ancienne. C'est quelqu'un qui est légèrement à la gauche de Mélenchon.
Et là, il dit, il n'y a pas assez de policiers.
Jérémy Corbyn. Et brusquement, il dit, il n'y a pas assez de flics. C'est un rôle de composition. C'est magnifique. Cocasse.
Non, on lui donnait 20 points d'avance, Theresa May, sur Jeremy Corbyn. Bon, maintenant, on parle de 3 points à peu près, mais ça n'a rien à voir avec les attentats terroristes.
D'accord. D'autres thèmes qui font la campagne en ce moment.
C'est que Mme May fait jusqu'ici une très mauvaise campagne. Alors, elle va se rattraper.
L'appareil militaire est en piteux état. Depuis la guerre en Irak, ils n'arrêtent pas de couper.
Et l'armée.
Il reste pas grand-chose de l'armée britannique.
C'est pas la police.
Oui, oui, d'accord, mais ça fait partie d'un système de défense nationale.
Jimmy Ellis, cet attentat, il peut changer la donne.
Écoutez, franchement, comme Philippe, je pense pas, parce qu'on a bien vu, par exemple, en France, il y a eu un attentat, enfin une attaque terroriste. Une circonstance assez dramatique, puisque ce soir-là, tous les candidats étaient à la télévision
pour le
dernier débat.
On
aurait pu penser que ça allait donner une petite prime à quelqu'un qui avait une certaine expérience de la gestion de l'État, comme François Fillon. Ça n'a pas du tout été le cas. Je pense que, d'ailleurs, historiquement, je ne vois pas de cas où des attentats aient changé le cours d'une élection, sauf le cas de l'Espagne, mais c'est parce que le gouvernement...
Était-ce l'attentat ou bien...
Parce que le gouvernement avait dit que c'était le TA, alors que c'était pas le TA.
La réaction d'Aznar à ce moment-là.
Voilà. Donc, sinon, je vois pas d'autres exemples où une élection ait été impactée sérieusement par des événements terroristes.
2004 aux États-Unis.
Anne-Elisabeth Moutet.
2004 aux États-Unis, la réélection de George Bush avec 3 millions ou 4 millions de plus de voix qu'en 2000. Ça, c'est évident que c'est dû au fait que les Américains ont pensé qu'il était le meilleur pour gérer la crise terroriste.
Mais pas immédiatement après un attentat.
Il s'agit de savoir quand tombent les échéances aussi.
Absolument.
Et puis aussi que le temps politique se rapproche tellement que quand il y a eu l'attaque contre l'école juive de Toulouse, on pensait c'est trois mois avant les élections où Nicolas Sarkozy a perdu contre François Hollande,
en
et alors on pensait que ça allait absolument asseoir la position de Nicolas Sarkozy, et en réalité c'était beaucoup trop tôt, il faut vraiment que ce soit très peu de temps avant pour que ça ait une influence et encore.
Donc la campagne va reprendre demain et sur d'autres bases, a priori, si je vous comprends bien, et c'est d'autres
surtout
débats.
Surtout sur l'économie, sur le chômage, sur toutes les questions
le Brexit,
dont on parle sans cesse en France.
Oui. C'était surprenant de voir à quel point j'ai trouvé extrêmement capable. Les questions du débat ont été formidables et les réponses, simplement, Theresa May fait une mauvaise campagne, ça c'est certain. C'est pour ça qu'elle se fait rattraper.
Alors
elle est guindée, elle se fait une mauvaise campagne.
On va parler de ce débat en France, hein, puisque aujourd'hui il y a eu de nombreuses réactions, évidemment, après cet attentat à Londres hier soir. Avant cela, l'info, 20h40, Yasmina Adila.
Un Français tué dans l'attentat de Londres, c'est une annonce ce soir du ministre des Affaires étrangères depuis la Tunisie où il est en visite. Jean-Yves Le Drian précise que 7 Français sont blessés, dont 4 grièvement. Une autre personne est portée disparue. Le ministre des Affaires étrangères se rendra demain à Londres. L'enquête se poursuit. 12 personnes ont été interpellées aujourd'hui dans l'est de Londres. 3 hommes ont foncé dans la foule au volant d'une camionnette sur le London Bridge. Ils ont ensuite poignardé des passants et des clients d'un restaurant à Borough Market avant d'être tués par la police. L'attentat fait au moins 7 morts et 48 blessés. N'ayons pas peur, c'est le message lancé ce soir par le chanteur du groupe Mumford & Sons lors du concert à Manchester. Événement en hommage aux victimes de l'attaque qui a frappé la ville il y a 2 semaines. En ce moment, plusieurs artistes se succèdent sur scène. 50 000 spectateurs sont présents. Le concert a commencé avec une minute de silence. Kristina Mladenovic en quart de finale de Roland-Garros. Elle a battu la tenante du titre Garbiñe Muguruza. 2 autres Françaises sont toujours en lice pour ce tournoi de tennis. Il s'agit d'Alizé Cornet et de Caroline Garcia. Les 2 joueuses s'affronteront demain pour tenter de gagner une place en quart.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jérôme Cadet.
Les informés de France Info avec Philippe Terle, Brigitte Hadès, Jimmy Haley, Guillaume Goubert et Anne-Elisabeth Moutet. Alors l'attentat de Londres a suscité de très nombreuses réactions à travers le monde et notamment en France. Un Français a été tué dans cette attaque. C'est ce que nous a dit ce soir Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Il y a 7 blessés français, dont 4 graves et 1 disparu. Emmanuel Macron s'est entretenu aujourd'hui au téléphone avec Theresa May et le Premier ministre Édouard Philippe, lui, a promis une coopération total pour aider les Britanniques dans la lutte antiterroriste.
La France et le Royaume-Uni sont des pays alliés, des pays qui font l'objet de menaces communes et qui vont répondre à ces menaces communes ensemble et de façon unie.
Voilà, réponse unie promet Édouard Philippe. Est-ce que le Brexit annoncé peut compromettre une coopération militaire, sécuritaire, policière entre les deux pays,
Philippe? Absolument pas, pour la simple raison que la France et la Grande-Bretagne ont signé un accord ensemble pour l'échange d'informations qui s'appelle l'accord de Lancaster House. Et donc, je ne sais pas combien de fois on m'a dit « Oui, de toute manière, quand il y aura le Brexit, ça serait fini l'échange d'informations. » C'est faux. S'il y a une chose qui ne changera pas avec le Brexit, c'est cela. Vous vous rendez compte la bêtise que ce sera de dire « Finalement, parce qu'on quitte l'Union européenne, on n'échange aucune information avec nos partenaires ou nos ex-partenaires. » Donc, ça continuera. D'ailleurs, Jean-Yves Le Drian l'a déjà souligné depuis l'attentat qu'il n'y aura aucun changement dans ce domaine.
On avait cru comprendre que Theresa May pourrait mettre ça dans les négociations, une pleine coopération en matière de sécurité contre un Brexit un peu plus facile.
Ça ne rentre pas dans le champ des négociations. Ça ne rentre pas dans le champ des négociations, tout comme les accords de défense ne rentrent pas dans le champ des négociations. C'est le traité de Saint-Malo. Donc non, ça n'est pas en question. Et puis, ça serait quelque chose qui serait incroyablement impopulaire. L'un des accords de coopération de renseignement qui est en danger en ce moment, c'est les Anglais contre les Anglais et les Américains, puisque le président Trump prend des informations secrètes qui lui sont communiquées de Manchester, et puis il les dit à la presse. Et ça sort dans le New York Times après une conférence de presse de Trump. Alors, en ce moment, il y a eu un arrêt ou un ralentissement et un gel extrêmement désagréable entre la Grande-Bretagne et les États-Unis sur les questions de d'intelligence, mais pas du tout entre la France et la Grande-Bretagne.
On parle du Brexit qui n'a pas encore eu lieu, même si les Britanniques se sont prononcés pour la question des frontières. Quand on est à l'abri derrière ces frontières, on n'est pas à l'abri du terrorisme. On a aussi eu ce débat en France ces derniers mois. L'exemple britannique, Guillaume Goubert, prouve que c'est un peu plus compliqué que de maintenir des contrôles aux frontières et de maintenir sa souveraineté en la matière.
Tout à fait. Et c'est pour ça que moi non plus, je ne crois pas que les échanges seront réduits. En plus, il y a vraiment une communauté de défense une estime réciproque en matière de défense entre les forces françaises et les forces britanniques qui est très grande. Les militaires français et les services de renseignement français ont beaucoup plus d'estime pour les Britanniques que pour les Américains, par exemple. Et donc, on voit mal cela s'arrêter. Ce serait, pour prendre un terme de jargon, ce serait totalement contre-productif.
Alors, parmi les réactions aujourd'hui, celle de Marine Le Pen qui demande à Emmanuel Macron d'arrêter de fanfaronner et de réunir un Yalta du contre-terrorisme avec la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis et la Russie. Alors, Yalta, c'était pas forcément l'entente cordiale entre ceux qui participaient pour remettre les choses dans leur contexte, mais est-ce que ça vous paraît urgent, par exemple, d'inclure la Russie dans des discussions, Gilles Mihaly, qui pourrait réunir les États-Unis, la France et d'autres?
La seule chose qui allait plutôt bien dans les G7, c'était le terrorisme. Donc ces gens-là, ils viennent d'en parler.
Donc a priori, ils sont déjà d'accord.
Oui, c'était même souligné plusieurs fois qu'on n'est pas d'accord sur le climat, on n'est pas d'accord sur ceci, mais sur le terrorisme, on est tous d'accord. Donc c'est déjà fait.
Brigitte Hadès.
C'est complètement fait. Ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on pense que l'Europe à 27, jamais ils ont coopéré à 27 sur la question du terrorisme, surtout les questions des renseignements. C'est toujours à deux, comme ont expliqué les gens du MI6, c'est toujours à deux ou à trois, éventuellement, quand on demande la permission de pouvoir communiquer un renseignement à un autre pays. Mais sinon, jamais. Donc c'était une question, c'est un non-débat dès le départ.
Alors, dans le parallèle qu'on peut faire entre la situation en Grande-Bretagne et la situation en France, il y a notamment l'utilisation des militaires qui ont été déployés en Grande-Bretagne ces derniers jours, qui sont dans les rues de France depuis le début de l'opération Sentinelle. Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France insoumise à Marseille pour ses législatives, s'est dit aujourd'hui opposé à la prolongation de l'état d'urgence et également à la fin de l'opération Sentinelle. On l'écoute.
Les militaires doivent prendre en charge des tâches militaires. La présence, l'opération Sentinelle est extrêmement coûteuse en temps, en usure morale et psychologique des personnes qui sont recrutées pour être des militaires et qui se retrouvent à passer des heures à patrouiller dans des gares et devant des bâtiments.
Jean-Luc Mélenchon chez nos confrères de CNews et d'Europe 1 ce midi. Est-ce que ça relance la discussion en France sur l'utilisation qu'on fait des militaires? Il y a moins de militaires dans les rues en Grande-Bretagne par rapport à la France, Guillaume Goubert.
En tout cas, moi, ce qu'on a pu constater à plusieurs reprises, c'est à peu près au moment où on parlait d'abaisser les dispositifs de type état d'urgence, il s'est produit un attentat ou un événement grave, et aussitôt, on a dit, ce sera pour plus tard. Moi, je vois pas comment, actuellement, on peut peut-être l'organiser mieux gérer les forces, ménager les personnes, etc., mais suspendre le dispositif...
Non, mais Jean-Luc Mélenchon, il dit, plutôt que des militaires, il faut mettre des policiers qui fassent des patrouilles, c'est pas à l'armée de faire ça.
Oui, mais ça peut pas se faire du jour au lendemain, je veux dire, l'avantage de l'armée, c'est que c'est des forces qui sont disponibles, qui sont extrêmement serviables, dans tous les sens du terme.
Ils obéissent,
absolument.
Ils sont très nombreux.
Voilà, on n'a pas de policiers à mettre à leur place.
Ils ont arrêté un attentat à Orly avec un minimum de dégâts. Ils sont extrêmement compétents. Ils se sont très bien défendus. Donc, tout ce qu'on disait sur le fait qu'ils n'étaient pas formés à ça, on s'est rendu compte que quand il s'agissait de faire de l'action, ils étaient bons. Et contrairement à ce que dit Jean-Luc Mélenchon, ce que j'entends dire d'amis militaires, c'est que l'armée est honorée de remplir ses tâches, qu'elle est bien reçue par les populations.
C'est pas ce que disent tous ceux qui patrouillent.
Il y a des problèmes de moyens, il y a des problèmes de temps, il y a des problèmes de fatigue. Mais sur le fait que ce sont des tâches, des tâches dont ils pensent, où ils pensent qu'ils sont utiles et où ils sont très bien reçus en France, ça, je pense que c'est tout de même une réalité.
Gilles Miali, sur l'utilisation des militaires.
C'est un piège politique. Tout le monde a peur de mettre fin à l'état d'urgence, de renvoyer les militaires à leur caserne.
On l'a jusqu'au 1er novembre, a dit Emmanuel Macron.
Et que le lendemain, quelque chose arrive, et hop. Mais il faudrait un jour mettre fin à cela. Les militaires sont très compétents, mais ils ne sont pas recrutés pour ça. C'est un énorme gaspillage, et on ne connaît pas l'étendue des dégâts du fait que ces gens-là sont devant des synagogues ou des mosquées ou dans des gares au lieu de s'entraîner. Ils ont des métiers très très compliqués.
Philippe Thorl, le modèle britannique, il est très différent en la matière. Les policiers, par exemple, sont moins armés. Il y a moins de policiers armés qu'en France, ce qui n'a pas empêché l'intervention rapide d'hier soir. Vous le soulignez tout à l'heure.
Vous avez les deux. Vous avez des policiers en ville, comme à Londres, dans le centre de Londres, qui sont armés et dont il y en a de plus en plus. Vous savez qu'on a un système à 5 niveaux comme en France, donc la Première ministre l'avait monté la semaine dernière après l'attentat de Manchester, et puis après ça a été rebaissé. Donc tout le monde pensait que ça allait monter jusqu'au niveau 5. De nouveau, ça n'a pas été le cas. Et on nous avait expliqué qu'au niveau 5, ça entraîne plus de soldats dans les rues de Londres, et la police prendra des places plus dans les villes pour protéger les gens. On est revenu au niveau 4. Donc on a la police dans les grandes villes qui sont d'une grande partie armée, qui sont prêts à intervenir pour combattre des terroristes ou de la violence. Et vous avez aussi les autres policiers qu'on connaît, tout le monde appelle ça les bobbies, qui ne sont pas armés, et la majorité de la population britannique ne le souhaite pas, et la police ne le souhaite pas non plus.
Malgré les attentats, cette question ne rebondit pas.
Négociation, ça n'a jamais été, ils n'ont jamais été armés, donc c'est un surenchère de l'armement que la plupart des Britanniques ne le souhaitent pas.
On continue ces échanges dans les informés de France Info. Juste après l'info, 20h50, Yasmina Adila.
Un Français tué dans l'attentat de la nuit dernière à Londres. 7 autres sont blessés, dont 4 dans un état grave. Une personne est portée disparue, annonce ce soir du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Cette attaque a fait au moins 7 morts et 48 blessés. Une camionnette a foncé sur des passants sur le London Bridge. 3 hommes ont ensuite attaqué des passants au couteau. Ils ont été abattus par la police. 12 personnes toujours en garde à vue ce soir à Londres, interpellées dans l'est de la capitale britannique. La police dit avancer dans l'identification des terroristes. La première ministre britannique, elle, a dénoncé l'idéologie malfaisante de l'extrémisme islamiste. Theresa May veut revoir la stratégie antiterroriste. C'est la 3e attaque en 3 mois qui frappe le Royaume-Uni. Une veillée en hommage aux victimes de cet attentat. C'est l'appel ce soir du maire de Londres. Sadiq Khan donne rendez-vous demain en fin de journée au parc de Potterfields, près de l'hôtel de ville. Il veut montrer l'union des Londoniens face à ceux qui les menacent. Une minute de silence sera respectée dans tout le pays mardi prochain, toujours en hommage aux victimes. Pas de Ligue des champions pour les joueurs de handball du PSG. Les Parisiens ont perdu en finale face aux Macédoniens de Skopje. Score final extrêmement serré, 23-24.
France Info.
20h-21h, les informés, Jérôme Cadet.
Les informés, Guillaume Goubert, Anne-Elisabeth Moutet, Gilles Miaëli, Brigitte Hadès et Philippe Turl. Alors on est parti de Londres, on a élargi la focale, la France, l'Europe, on va encore s'éloigner un petit peu. L'Irak et la Syrie, berceau de l'organisation État islamique, Daesh qui ne cesse de perdre du terrain. La ville de Mossoul en Irak est en passe de lui échapper totalement. Et en Syrie, l'offensive contre Raqqa, considérée comme la capitale de l'État islamique, cette offensive est imminente. Daesh recule, mais les attentats se poursuivent. Il n'y a donc pas de lien entre les deux, finalement, Brigitte Hadès.
Mais il n'y a vraiment pas de lien, parce qu'en fait, c'est des liens de récupération. C'est des intimidations qui n'auront pas lieu, parce qu'avant même que Daesh ne soit là, il y avait déjà des attentats. En 2005, il y a eu des attentats en Angleterre. On a eu des attentats au Boulevard Saint-Michel, etc.
Nous, voilà, on a quand même eu une succession d'attentats en France,
effectivement,
au Royaume-Uni.
Oui, il y a des récupérations qui sont faites. Il y a peut-être des gens qui sont maintenant emmenés dans cette aventure du djihadisme à cause de Daesh, parce que maintenant ils ont des bonnes raisons, disons, dans leur tête, d'attaquer les croisés, c'est-à-dire les Occidentaux. Mais est-ce que vraiment, je lui pose la question, je suis pas certaine.
Gilles Miaëli, cette contradiction apparente.
C'est un système très compliqué. Je pense que c'est très important pour le terrorisme contemporain d'avoir un pays sûr, un endroit comme l'Afghanistan, un état faillite, où on peut avoir certains centres idéologiques, centres d'entraînement. Ça ne veut pas dire qu'ils envoient des terroristes entraîner chez eux, mais ils font un endroit où on peut faire des vidéos, on peut s'enregistrer sans avoir à craindre un service de sécurité trop compétent, où on peut payer de bakchiches pour. Donc il faut en Afghanistan, il faut en Irak, il faut en Syrie.
Alors donc quand on réduit Daesh en Irak et en Syrie, quoi qu'il arrive, on affaiblit le terrorisme.
D'un côté, c'est très important d'assécher ces marées. De l'autre côté, je pense qu'ils vont se débrouiller pour trouver des zones de non-droit, que ce soit à Pakistan, dans une zone tribale ou ailleurs. Et donc, ça va pas. On ne verra pas la fin de ça très, très, très prochainement.
Guillaume Goubert.
Le recul territorial de Daesh, l'État islamique, est certainement défavorable pour organiser des opérations lourdes, des opérations de réseau. En revanche, les opérations, j'allais dire, low cost, telles que celles auxquelles on a assisté récemment. Ce n'est pas des grosses opérations qui demandent beaucoup de préparation, beaucoup de logistique, qui ne demandent pas d'armement, etc., d'armement lourd. Voilà. En même temps, on peut très bien imaginer que, comme vient de le dire Gilles, que ce système terroriste retrouve une base, par exemple en Libye ou dans des zones comme ça, dans la zone sahélienne, où il y a beaucoup de zones qui sont extrêmement mal contrôlées, où on peut imaginer qu'après-demain se reconstitue une base pour piloter des opérations terroristes lourdes.
Et puis on voit des choses assez étonnantes. Daesh qui revendique des attentats, par exemple l'incendie à Manille d'un casino aux Philippines. La police des Philippines nous dit aujourd'hui que c'était un catholique joueur invétéré qui avait de très lourdes dettes et qui a incendié ce casino et qui nie tout acte terroriste. Et généralement, les revendications de Daesh sont bonnes. Et là, il y a une contradiction forte avec les motivations présentées par la police philippine. Bref, il y a une guerre de communication qui est toujours en place, Philippe Turl.
Moi, je pense que Daesh, évidemment, est mal en point en ce moment. Vous avez des cellules dormantes qui sont éparpillées à droite à gauche, qui font tout pour rester anonymes, qui restent dans la loi, qui ne fréquentent pas trop les réseaux sociaux, mais qui sont là pour se réveiller le moment venu pour commettre un attentat. Alors, est-ce que c'est Daesh qui donne l'ordre? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est Daesh qui organise cet attentat et qui donne les instructions? Je n'en sais rien non plus. Mais il se peut qu'il y a un lien entre la répression contre Daesh, la perte de terrain, et les cellules dormantes qui se réveillent. Donc, voilà, Daesh est en train de perdre du terrain. Moi, il faut que je me lance pour faire valoir que Daesh existe toujours. Mais malheureusement, c'est pas seulement au Moyen-Orient qu'on trouve Daesh, parce que, comme vous disiez très bien, il y a des cellules en Libye, vous avez Boko Haram au Nigeria. Voilà, vous avez d'autres organisations qui sont prêtes à prendre le défi, le relaye derrière.
Merci à tous les cinq d'avoir participé aux informés de France Info ce soir. Philippe Teur, journaliste britannique à RFI, Gilles Miaelli, directeur de la publication de Causeur, Guillaume Goubert, directeur de La Croix, Anne-Elisabeth Moutet, éditorialiste au Daily Telegraph, Brigitte Hadès, chef du bureau britannique de la revue Politique Internationale. Je signale que vous publiez Les Exilés du Paradis, Brigitte Hadès, c'est chez Porta Parole. On est précisément dans ce sujet-là, hein, l'affrontement entre l'islam éclairé, l'islam radical, et ça se passe notamment à Londres.
Ça se passe à Londres, justement, parce que c'est pour encourager les musulmans à prendre leur voix, à avoir une autre lecture du Coran. Et j'ai pensé que c'était très important de les faire agir, parce que ça leur encouragera peut-être à faire quelque chose. Et surtout, il y a un attentat qu'ils déjouent, exactement comme celui qui s'est passé hier, par hasard, mais finalement c'est quelque chose qui va se produire malheureusement probablement encore.
Voilà, c'est un roman, Les Exilés du Paradis. Merci à vous d'avoir suivi ce soir les informés de France Info, informés qui reviennent demain évidemment avec Jean-Mathieu Pernin. Bonne soirée.